Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florent.
Et le journal, c'est avec vous Hortense Crépin, bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Il entre dans le club très fermé des Français ayant remporté un Grand Prix de Formule 1.
Esteban Ocon s'est imposé hier sur le Grand Prix de Hongrie. Première victoire pour le Normand de 24 ans, première victoire aussi pour Alpine depuis 2008. Après le week-end de chasse et croisée, l'heure du premier bilan du mois de juillet pour le tourisme. Et c'est plutôt bon vu le contexte et sans gros effets passe sanitaire. Photographier une scène de crime en combinaison blanche comme dans la série Les Experts. Si c'est votre rêve, il pourrait devenir réalité. La police scientifique recrute près de 100 candidats. Et puis au JO, toujours 21 médailles pour nos Français. Et pour le moment, la 7e place au classement.
On va prendre des nouvelles du secteur aérien. Après ce journal, ce sera avec l'écho d'Anaïs Bouissou. Et puis à 8h moins le quart, notre invité Alain Fischer en charge de la stratégie vaccinale.
RTL Matin.
Le coup de foudre, c'est le titre en une de l'équipe ce matin.
Et l'image d'un jeune homme de 24 ans, en combinaison de pilote noir, pointant les doigts vers le ciel, tel un éclair. Esteban Ocon a remporté hier le Grand Prix de Hongrie en Formule 1 au bout d'une course au suspense insoutenable, comme un rêve qui franchit la ligne d'arrivée pour le natif d'Evreux, Frédéric Veil.
Oui, c'est fait. Esteban Ocon est rentré dans le cercle très fermé des Français vainqueurs d'un Grand Prix de Formule 1. À 24 ans, il s'offre sa première victoire en 78 Grands Prix. Une récompense aussi pour ses parents qui ont fait d'énormes sacrifices pour que leur prodige de fils fasse dès l'âge de 5 ans du karting dans le club de Claude Gripon. Tout ému hier de la victoire de son poulain.
Heureux, quoi. Évidemment, tout se mélange. Les souvenirs remontent à plein la tête. Et puis c'est extraordinaire. Quoi. C'est une grande, grande joie de voir Esteban gagner comme on a vu Pierre gagner il y a un an. Quoi. Donc, l'avenir est plutôt bon. Et si on ajoute par-dessus tout ça qu'il a un contrat de 3 ans, on a le droit d'être vraiment optimiste.
Mais mieux encore, hier après-midi, Esteban Ocon a offert à la France la première victoire d'Alpine en Formule 1, la première du groupe Renault depuis le retour de l'écurie française en F1 en 2015. Le jeune Normand en était tout ému. Lui qui n'a pas toujours eu la vie facile, lui qui a 13 ans, dormait avec son père dans une caravane située à 2 pas d'une piste de karting.
Frédéric Veil pour RTL et l'Allemand Sébastien Vettel perd lui sa 2e place après avoir été disqualifié. Il n'a pas été possible de prélever un extrait de son carburant après la course. Arrivé 3e, ce qui lui permet de récupérer la place de leader au général Lewis Hamilton, lui inquiétait les fans de F1. Gros coup de fatigue pour le Britannique sur le podium. Il explique toujours ressentir des effets du Covid qu'il a eu l'an dernier.
Eh bien, le coronavirus justement, Hortense, c'est le couvre-feu de nouveau en place en Martinique depuis ce week-end.
Objectif, lutter contre la flambée des cas alors que les hôpitaux sont saturé. 3 patients ont été transférés en métropole ce week-end. Et dans le même temps, des manifestations ont eu lieu à Fort-de-France. Un vaccinodrome et une pharmacie ont même été incendiés. Stanislas Cazel est le préfet de Martinique.
C'est dans ce contexte de forte tension avec une population qui jusqu'à maintenant a été hésitante face au vaccin, mais une reprise extrêmement forte de l'épidémie que viennent ces événements. On a aussi cette tension qui est liée au fait que nous sommes en période de grandes vacances avec une population qui aspire à profiter de ces vacances et qui est confrontée à cette reprise de l'épidémie et donc à des mesures de restriction qui sont importantes. Face à ces tensions, il y a bien sûr la nécessité inlassablement d'expliquer les enjeux du vaccin, d'expliquer les enjeux de la crise sanitaire et de laisser s'exprimer un certain nombre d'expression. En revanche, cette expression, elle ne peut pas se faire de façon violente, elle ne peut pas se faire de façon à dégrader les lieux publics. Et donc, il y a aussi une très grande fermeté au cours des prochains jours. Les enquêtes continueront pour essayer d'identifier davantage les casseurs et qui puissent être sanctionnés.
Le préfet de Martinique, joint par Nathan Bocard.
Et puis je vous rappelle qu'à 8h moins quart, nous serons avec Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement. 7h33 sur RTL, c'est dans juste un mois, le retour à l'école et la rentrée des classes déjà.
Oui, déjà, mais avant de reprendre les cartables et les crayons, place au saut et aux pelles de plage des vacances, l'occasion, après un mois de congé, de faire le premier bilan touristique de juillet. En cette année particulière, toujours marquée par la pandémie, les professionnels sont globalement rassurés, Arnaud Touche.
Oui, les professionnels du tourisme parlent d'un mois de juillet plutôt bon, notamment dans l'hôtellerie de plein air, mais pas que. Solange Escure est la directrice de Gîtes de France.
C'est un très très bon bilan pour ce mois de juillet, puisque nous avons un taux d'occupation exceptionnel qui est même nettement supérieur à celui que nous avions en 2019. Puisque sur l'ensemble du mois de juillet, on a un taux d'occupation moyen à 80% sur tous les départements.
Selon Brotableau, les grandes métropoles, Paris en premier lieu, qui souffrent beaucoup avec une clientèle étrangère, étrangères très peu présentes. Certains hôtels ont préféré fermer temporairement. Les Français ont préféré la Côte d'Azur. La fréquentation est 10 fois supérieure par rapport à juillet 2020. Et beaucoup sont venus en train, comme le précise Christophe Fanichet, le président de Voyage SNCF.
Le bilan du mois de juillet, c'est plus de 10 millions de voyageurs qui ont déjà pris le train pour partir en vacances cet été. C'est 90% de ce que nous avions fait en 2019, donc avant la crise sanitaire.
Les réservations pour le mois d'août restent encourageantes malgré le pass sanitaire obligatoire dans les trains et dans les campings. Cela n'entraîne pas pour l'instant d'annulation massive.
Arnaud Touche pour RTL. Alors on entendait donc des professionnels satisfaits de ce mois de juillet, mais certains sont confrontés à un problème majeur, le manque de bras. Dans les bars, les hôtels et les restaurants, avec les confinements, beaucoup ont quitté leur poste sans être remplacés. Dans les Hauts-de-France, ce sont près de 1500 personnes recherchées dans le secteur de la restauration. Vous l'avez constaté avec un patron lillois qui peine à recruter des cuistots, Antoine de Carnes.
Dans sa salle, juste avant le service de l'un de ces trois restaurants de la métropole, Pierre-Benoît Casterman compte encore les salariés manquants.
Il me manque donc une personne en cuisine sur le restaurant de Lille Colbert. Il me manque deux personnes en salle sur le restaurant de Roubaix. Une personne en salle sur le Pancook du Zénith. Grosso modo, sur trois restos, il manque déjà quatre personnes.
Et cela alors qu'à la fin de chaque confinement, il avait déjà fallu remplacer d'anciens salariés partis dans d'autres branches. Tout est donc à refaire.
J'ai entamé des recherches sur 100% des offres qui me sont présentées. Peut-être 2% sont valables. Retrouver du personnel aujourd'hui, que ce soit en cuisine ou en salle, c'est très compliqué. Je dois élargir le spectre de recherche pour avoir plus de chances dans les trouvailles de personnel que j'espère.
Et pourtant, l'État, Pôle emploi, la mission locale se sont déjà associés à la Chambre de commerce et d'industrie pour mettre en relation candidats et restaurateurs. David Bruxelles est le directeur général de la CCI Hauts-de-France.
On a réussi à pourvoir environ 4000 postes, mais on a encore environ 1500 postes à pourvoir. On a des formations qui existent dans les CFA pour se former au métier de la cuisine, au métier de la restauration.
Et dans la région, c'est à Lille ou sur la Côte d'Opale que les demandes sont les plus urgentes pour permettre aux restaurateurs d'assurer au moins la saison comme il se doit.
Le reportage à Lille d'Antoine de Carnes pour RTL.
La restauration cherche donc à recruter, mais ce n'est pas le seul milieu. La police scientifique ouvre, elle, son concours aujourd'hui.
Ah oui, si les experts vous ont toujours fasciné, Jérôme, c'est le moment. 94 places ouvertes et des candidatures à envoyer avant la fin du mois. Une année de formation pour apprendre toutes les techniques, des prélèvements aux photos. Mais alors, est-ce que le métier ressemble vraiment à celui des héros de séries télé? Mais écoutez, la réponse de Jessica Gabellata, elle est technicienne principale en police technique et scientifique.
Moi, c'est les experts Miami qui m'ont motivé. Quand on me demandait au collège qu'est-ce que tu veux faire, je disais comme les experts.
Et du coup, votre métier aujourd'hui il ressemble à ce dont vous rêviez en regardant les séries?
Il y a un petit peu de ressemblance. On nous trouve sur les scènes de crime en combinaison blanche, avec la petite lumière bleue, la poudre, le petit pinceau. Donc tout ça, c'est vraiment pareil. Par contre, il y a des grandes différences. Par exemple, on ne fait pas l'enquête. C'est-à-dire que nous, on est spécialisés dans la recherche des traces d'un indice, voilà, que ce soit sur la scène de crime, en laboratoire, sur les objets, dans les traces numériques, voilà, sur les téléphones, les ordinateurs, les GPS. Par contre, nous sommes une orientation à l'enquête, c'est-à-dire que tout ce qu'on va prélever, on va le fournir à l'enquêteur. Et c'est l'enquêteur, lui, qui après va faire ses recherches. Voilà, s'il y a un suspect, c'est lui qui va le convoquer, voilà. On est une aide à l'enquête.
Jessica Gabellata de la police scientifique, jointe par Guillaume Chiez.
Allez, 7h38, on prend la direction de Tokyo.
RTL à Tokyo.
Et les épreuves de judo qui sont maintenant terminées. Les tricolores sont repartis avec 8 médailles dans leur bagage, dont 2 en or. Formidable équipe de France et un président de la fédération heureux au micro d'Isabelle Langer.
On a un bilan incroyable. Je pense qu'on a une équipe de tout le monde, je préfère le dire, aussi bien le staff que les entraîneurs, que les coachs, que les médecins. C'est juste incroyable. Voilà, on est hyper contents de ces 8 médailles, on est contents.
Ça va être chaud la rentrée dans les clubs. Il y a plein de petits gamins là, qui vont vouloir venir.
Ah bah j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont venir. On a 5500 clubs, on a 12 000 professeurs bien formés. Et les enfants que les parents vont nous confier, ils vont faire des hommes.
Et des femmes, parce qu'elles ont été...
Ah non, elles ont été... Ah, c'était des championnes. Alors c'est mon équipe de samouraïs femmes. Elles sont hyper brillantes, elles ont toute une belle histoire. Elles sont parfaites, nos femmes au judo. Et mon objectif, c'est qu'il y ait un jour 50% d'hommes, 50% de femmes dans les licenciés du judo français.
Stéphane Nomis, le président de la Fédération française de judo, avec Isabelle Langer, que vous retrouverez ce soir dans On refait les Jeux à 18h30, présenté par Marie Portolano et Jean-Michel Rascol. Et puis en bref, en handball, qualification des filles pour les quarts, victoire 29-22 contre le Brésil. Grosse déception, c'est l'élimination de Kumba Larock dès le premier tour de la lutte dans les catégories des moins de 68 kilos. La championne d'Europe peut encore être repêchée et décrocher le bronze si son adversaire mongol va jusqu'en finale. Enfin, en tir à 25 mètres, qualification pour la finale de Jean-Ki Campoy, le vice-champion olympique, tente de décrocher une médaille. Ça vient de démarrer.
Et puis, puisqu'on parlait de judo, je vous rappelle qu'Axel Clerget, le judoka champion en or, sera notre invité tout à l'heure.